Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast de voixpoétique.com. Je suis David, animateur de ce podcast et également écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Ce début d'année 2026, j'ai fait un vœu. Ce vœu est de vous faire voyager tout autant que moi-même j'ai pu voyager à travers la poésie. J'ai voyagé, bien sûr, dans des univers communs, tels que les univers de Rimbaud, de Baudelaire, de Rilke et de tant d'autres. Mais j'ai déjà, en 2025, commencé à mettre le pied sur les terres de quelques poètes étranges qui ont rallié parfois le monde de la musique. Et j'ai décidé, à partir de maintenant, eh bien, de continuer à traiter ces poètes communs en lien avec l'Occident, tels que ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi de vous emmener un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, nous allons aborder la vie et l'œuvre d'un squald, un poète qui se nomme Egil Skallagrimson. Alors, par avance, je ne suis absolument pas norvégien, même si j'ai un profond amour et une profonde admiration pour toutes ces terres du Nord et son histoire. Vous pourrez le voir en rejoignant mon Instagram, notamment, j'en parle assez souvent. Mon Instagram est davidpoetefr. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre et même à venir me parler si vous le souhaitez. Donc, je ne suis pas des terres du Nord et mes prononciations parfois seront peut-être erronées. Mais l'important, à mon avis, est le cœur de ce qui est présenté ici. Et tout ceci va vous être présenté, bien sûr, en bon français. Alors, je vous propose avant toute chose d'imaginer un homme debout sur un promontoire islandais, face à la mer, qui vient de lui ravir ses fils. Le vent glacé fouette son visage. Mais c'est une autre tempête qui gronde en lui. Cet homme, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appelle Egil Skallagrimson. Et dans quelques instants, il va composer l'un des plus beaux poèmes de deuil que l'humanité ait connu. Un poème qui commence par maudire Odin, le dieu des dieux, avant de le remercier du seul don qui rend la vie supportable, celui de la parole poétique. Nous sommes au Xe siècle, à l'âge des Vikings, et pourtant, les mots d'Egil nous parviennent intacts, vibrant de cette douleur qui ne connaît ni époque ni frontière finalement. Comment la poésie d'un guerrier scandinave du Moyen-Âge peut-elle encore nous toucher aujourd'hui? Et que nous dit-elle de la condition humaine, de notre rapport au langage, à la perte et à la création? Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Egil Skallagrimson, sans doute le plus grand squald de l'époque viking, pour comprendre comment la poésie, dans son exercice le plus ancien et le plus codifié, demeure paradoxalement l'espace de la liberté la plus radicale, celle de nommer l'innommable, de transformer la rage en beauté et de négocier avec les dieux eux-mêmes. Pour comprendre Egil, il faut à mon sens d'abord saisir ce qu'était un squald dans le monde viking. Le mot même squald porte en lui la trace du son de la voix qui résonne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le squald n'est pas un simple troubadour ou une sorte d'amuseur de cour. C'est un architecte du verbe, c'est un orfèvre du langage qui maîtrise l'un des systèmes poétiques les plus sophistiqués jamais développés par une culture orale. La poésie skaldique n'est pas affaire d'inspiration spontanée ou d'émotions débridées. C'est un art rigoureux, c'est un art presque mathématique dans sa structure, et c'est précisément dans cette contrainte extrême que le génie poétique peut s'épanouir. Chaque vers doit respecter un nombre précis de syllabes, des allitérations complexes, des assonances internes, mais par-dessus tout, la poésie skaldique repose sur le keningar, ces métaphores composées qui transforment chaque substantif en énigme poétique. Je vous donne un exemple. Pour dire, par exemple, la mer, eh bien, le skald ne dira pas simplement la mer. Il dira le champ des baleines, le domaine de la mouette, ou encore la route du cygne. Pour désigner un guerrier, il parlera du nourricier des corbeaux. Car les corbeaux se repaissent des cadavres sur les champs de bataille. Pour évoquer une femme, ce sera le tilleul des joyaux ou le pin des anneaux d'or. Chaque kening est un petit monde en soi, une sorte de compression de sens qui force l'auditeur à un travail d'interprétation, à une participation active au poème. Mais allons encore un petit peu plus loin, si vous le voulez bien. Les skalds, les plus talentueux, comme Egil, eh bien, ne se contentent pas de keningar simples. Ils créent des keningar à plusieurs niveaux. Les métaphores de métaphores. Ainsi, pour dire bataille, on peut dire tempête des épées. Et si l'on veut parler d'un bouclier, eh bien, on dira le ciel de la tempête des épées. Vous saisissez la complexité, là ? Eh bien, c'est une poésie qui exige de l'auditeur, ou du lecteur, une lecture partagée, une connaissance de la mythologie, des codes sociaux et du monde naturel. Cette sophistication n'est absolument pas gratuite, elle répond à une fonction sociale très précise. Le skald est le gardien de la mémoire. Dans une société où l'écriture n'existe pas encore, ou vraiment que très peu, eh bien c'est lui qui préserve le souvenir des rois, des batailles, des généalogies. Ses poèmes doivent être mémorables au sens premier, dignes d'être mémorisés. Et pour cela, eh bien ils doivent être à la fois beaux et structurés de manière à faciliter la transmission orale. Egil était un maître absolu dans cet art, vous l'aurez compris. Les sources nous disent qu'il composa son premier poème à l'âge de 3 ans. Affirmation sans doute légendaire, mais qui témoigne de la précocité extraordinaire de son talent. Toute sa vie, la poésie sera pour lui à la fois un don, un métier, mais aussi une arme. Une arme au sens propre d'ailleurs. C'est par un poème qu'il sauvera sa tête. L'histoire est célèbre. Egil, devenu l'ennemi mortel du roi Éric à la hache sanglante et de son épouse Gunhild, fait naufrage au large de la Northumbrie, précisément sur les terres contrôlées par son pire adversaire. Capturé, il devrait être exécuté normalement sur le champ. Mais Egil possède une arme que personne ne peut lui ôter, son art poétique. Son ami, Arinbjörn, lui suggère de composer un poème de louange pour le roi. Egil se met au travail et en une seule nuit, crée le Ofudlausn, littéralement le rachat de la tête. Ce poème de 20 strophes est un absolu chef-d'œuvre de virtuosité technique, mais aussi de diplomatie psychologique. Egil y loue les exploits militaires d'Éric, tout en glissant subtilement des allusions à leur rivalité passée. Il démontre ainsi que sa valeur en tant que skald dépasse la satisfaction d'Éric, celle qu'il pourrait tirer de sa mort. Le lendemain matin, Egil récite son poème devant le roi. Eric, impressionné par la maîtrise poétique de son ennemi, eh bien, lui accorde la grâce. L'histoire nous dit qu'il déclara « Un tel poète mérite de vivre ». Alors, que cherche à révéler cet épisode ? Eh bien, que dans la culture nordique de l'époque, la poésie n'est pas un simple ornement culturel, un luxe réservé au moment de paix, elle est une force agissante, capable de transformer le réel. Le skald n'est pas un spectateur de la vie, mais c'est plutôt un acteur qui, par la puissance du verbe, eh bien, peut infléchir le cours des événements. Cette conception de la poésie, comme parole performative, c'est-à-dire comme parole qui agit sur le monde, eh bien, nous est devenue étrangère. Nous avons tendance à reléguer la poésie dans la sphère de l'intime, du lyrique, du subjectif. Mais pour Egil et ses contemporains, eh bien, la poésie est objectivement efficace. Elle crée de la réalité. Pensez aux runes magiques qu'Egil grave sur un bâton pour maudire le roi Eric et la reine Gunhild. Il y inscrit une malédiction sous forme poétique, plante le bâton en terre en direction de la Norvège et termine son rituel par ces mots. « Je tourne cette malédiction contre les esprits gardiens de cette terre afin qu'ils errent tous égarés, sans trouver repos ni demeure, jusqu'à ce qu'ils aient chassé le roi Eric et la reine Gunhild de ce pays. » Un an plus tard, le roi et la reine sont effectivement contraints de fuir la Norvège. Est-ce que c'est une coïncidence ? Peut-être. Mais ce qui importe, c'est que, pour Egil, la parole poétique possède un pouvoir intrinsèque. Elle n'exprime pas seulement des émotions ou des pensées, elle les incarne, elle les rend agissantes, les projette dans le monde. Et cette vision rejoint d'ailleurs certaines intuitions de la philosophie contemporaine du langage. Quand un juge prononce « je vous déclare coupable », eh bien, il ne décrit pas un état de fait préexistant, il crée une réalité juridique par sa parole. De même, quand Egil compose un poème de louange ou de malédiction, eh bien, il ne se contente pas de commenter le monde, mais il le configure. Venons-en maintenant à ce qui fait d'Egil bien plus qu'un virtuose technique, sa philosophie de l'existence telle qu'elle transparaît dans sa poésie. Egil incarne une certaine conception nordique de la condition humaine, marquée par trois axes fondamentaux. La conscience aiguë du destin, la valorisation de l'honneur et l'acceptation de la mort comme horizon de toute vie. Le destin, que l'on dit Orlog en vieux norrois, n'est pas pour les Vikings une force abstraite. C'est le tissu même de l'existence tramé par les Nornes, ces trois déesses qui habitent au pied de l'arbre-monde d'Yggdrasil. Chaque vie est un fil dans cette tapisserie cosmique et nul ne peut échapper à ce qui a été tissé pour lui. Cette vision pourrait mener au fatalisme et à la résignation, mais c'est justement tout le contraire qui se produit. Car si le destin est inéluctable, la manière dont on l'accomplit, eh bien, reste libre. Et c'est là toute la subtilité de la philosophie nordique. On ne peut pas changer ce qui doit advenir, mais on peut choisir comment on l'affronte. Et c'est dans ce « comment » que réside toute la dignité humaine. Egil illustre parfaitement cette tension. Sa vie est jalonnée de pertes terribles, la mort de son frère Thorolf sur le champ de bataille, celle de son meilleur ami Arinbjörn, et surtout la mort de ses deux fils. Chaque fois, Egil est confronté à l'absurdité du malheur, à l'arbitraire de la souffrance. Et chaque fois, c'est par la poésie qu'il négocie avec cette fatalité. Le sonatorec, l'irréparable perte des fils, est à cet égard un document philosophique autant que poétique. Egil y expose, avec une lucidité déchirante, bien son combat intérieur entre le désir de mourir et celui de continuer à vivre. Quand ses fils se noient en mer, Egil se retire dans sa chambre et refuse de boire et de manger. Il veut se laisser mourir. C'est sa fille, Torger, qui le tire de cette torpeur mortelle en lui suggérant de composer un poème funèbre. Et c'est là que se produit quelque chose de fascinant. En composant le Sonatorec, eh bien, Egil accomplit un triple geste philosophique. D'abord, il affronte sa douleur en la nommant. Il ne la fuit pas, il ne la nie pas. Il la regarde en face et il lui donne forme dans le langage. Cette nomination, eh bien, c'est à mon sens déjà une première victoire. Ce qui est dit existe autrement et ce qui reste muré dans le silence le reste à tout jamais. Ensuite, il accuse Odin d'avoir rompu le lien de confiance qui devrait unir le dieu et ses fidèles. Odin lui avait donné l'art poétique, mais il lui a aussi pris ses enfants. Egil ne se résigne pas passivement à cette perte. Il met en question l'ordre divin lui-même. C'est un geste de révolte métaphysique d'une rare audace pour l'époque. Enfin, il reconnaît sa dette. Malgré tout, malgré la douleur et la rage, eh bien, Egil admet qu'Odin lui a fait un don précieux, celui de pouvoir transformer sa souffrance en beauté. Et c'est ce don qui, finalement, le réconcilie avec la vie. Non pas qu'il oublie ses fils, non pas qu'il cesse de souffrir, mais il trouve dans la créateur une raison de continuer. Cette dialectique de la révolte et de l'acceptation de la bénédiction et de la gratitude, eh bien, fait du Sonatorec un poème étonnamment moderne. On y entend des échos de ce que la philosophie existentialiste dira bien des siècles plus tard, que l'homme est jeté dans un monde dont il ne choisit pas les conditions, mais qu'il reste libre de donner sens à ce qui lui arrive. Il y a encore un aspect de la poétique d'Egil qui mérite, à mon sens, toute notre attention, c'est sa capacité à créer de la beauté formelle à partir du chaos émotionnel. Car ne nous y trompons pas, malgré la structure rigoureuse de la poésie skaldique, malgré les contraintes formelles extrêmes, les poèmes d'Egil ne sont jamais froids ou artificiels. Au contraire, la contrainte semble libérer l'émotion plutôt que l'étouffer. Et c'est là un paradoxe fécond que connaissent tous les grands poètes, je pense. La forme n'est pas l'ennemi du contenu, mais elle en est plutôt une sorte de véhicule. En obligeant le poète à travailler son matériau, à choisir chaque mot avec soin, à sculpter chaque vers, la contrainte formelle permet une intensification de l'expression. L'émotion brute, livrée sans médiation, risque de se dissoudre dans le cri ou le bavardage. Mise en forme, eh bien, elle acquiert une densité, une résonance qui la rend universelle. Chez Egil, eh bien, cette tension entre forme et émotion atteint, je pense, un juste équilibre. Prenez le début du Sonatorec. Le Skald y évoque sa difficulté à composer, sa bouche qui refuse de s'ouvrir, sa langue paralysée par le chagrin, et pourtant, dans le même mouvement, il compose. L'impossibilité de dire devient le sujet même du dire. Cette mise en abîme pourrait être artifice rhétorique, mais elle fonctionne parce que, finalement, on sent la sincérité derrière les mots. C'est peut-être cela, finalement, le génie d'Egil. Avoir su maintenir ensemble la sophistication formelle héritée de la tradition skaldique et l'authenticité d'une voix personnelle qui traverse les siècles. Ces poèmes ne sont jamais de simples exercices de style, mais ils sont des actes de survie, des sortes de moyens de continuer à vivre quand tout pousse à l'effondrement. Dans la tradition nordique, eh bien, le skald qui compose son dernier poème avant de mourir au combat rejoint Odin dans la Valhöll, le palais des guerriers morts. Egil, lui, n'est pas mort au combat. Il a vécu même jusqu'à un âge plutôt avancé, devenant aveugle et sourd, perdant peu à peu ses forces. Mais jusqu'au bout, il a continué à composer. Jusqu'au bout, la parole poétique a été pour lui ce qui maintient l'être humain debout, ce qui donne forme au chaos, ce qui transforme la souffrance en chant. Alors, Vous pourriez vous demander en quoi cette poésie millénaire nous concerne-t-elle encore aujourd'hui ? N'est-elle pas irrémédiablement liée à un monde disparu, à une vision mythologique, eh bien que nous ne partageons plus vraiment ? Eh bien, je crois au contraire qu'Hegel nous parle avec une acuité particulière aujourd'hui, à plusieurs égards. D'abord, il nous rappelle que la poésie n'a pas toujours été ce qu'elle est devenue dans notre modernité tardive, c'est-à-dire une sorte d'exercice marginal réservé à quelques initiés coupés de la vie collective. Pour Hegel et ses contemporains, la poésie était au cœur de l'existence sociale. Elle servait à préserver la mémoire, à négocier les conflits, à donner sens aux événements. Elle n'était pas un luxe culturel, mais plutôt une nécessité existentielle. Cette conception de la poésie comme parole essentielle et non comme ornement, eh bien, me semble d'une actualité brûlante. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est saturé de communications vides, de mots jetables, de slogans creux. Et nous avons besoin de retrouver ce que le langage peut avoir de fondateur, de créateur de réalité. Et Hegel nous montre que la poésie n'est pas ce qui embellit la vie, c'est ce qui la rend possible. Ensuite, la figure même d'Hegel, guerrier et poète, violent et sensible, révolté et résigné, défie absolument toutes nos catégories habituelles. Nous aimons classer les gens, d'un côté les hommes d'action, de l'autre les contemplatifs, d'un côté les forts, de l'autre les vulnérables. Hegel refuse cette séparation et il nous montre qu'on peut être à la fois un combattant redoutable et un poète bouleversé par la mort de ses enfants, qu'on peut maudire les dieux et les remercier dans le même poème. Cette complexité, cette capacité à tenir ensemble des contraires, bien me semble une leçon précieuse de nos jours. Nous vivons dans une époque, je le dis souvent, qui nous pousse à l'uniformisation, à la cohérence forcée, à la performance d'une identité monolithique. Eh bien, Hegel nous dit qu'on peut être multiple, contradictoire, et que c'est précisément dans cette tension que réside toute notre humanité. Enfin, la manière dont Hegel affronte le deuil, dans le Sonatorec, reste un modèle de dignité. Il ne se voile pas la face, il ne cherche pas de consolation facile, il regarde la perte en face, l'homme s'y confronte, mais il ne s'y laisse pas enfermer. Par l'acte poétique, il transforme la mort de ses fils en quelque chose qui les fait vivre autrement et qui préserve leur mémoire tout en permettant au père de continuer à vivre. Dans nos sociétés, qui ont souvent du mal à affronter la mort, qui la cachent ou la spectacularisent, qui ne savent plus quel mot dire face au deuil. Eh bien, Hegel nous offre un exemple de ce que peut être une parole vraie devant l'irrémédiable. Hegel est mort vers 990, probablement à Mosfell, en Islande, après avoir vécu près de 80 ans. Ces dernières années furent marquées, je le disais tout à l'heure, par la cécité et la surdité, mais aussi par une légende tenace. On raconte qu'avant de mourir, il aurait caché deux coffres remplis d'argent anglais, emportant leur emplacement dans la tombe. Certains y voient une métaphore. Le trésor véritable d'Hegel n'était pas l'argent, mais ses poèmes, qu'il a légués à la postérité. Et quel héritage ? La saga d'Hegel, probablement rédigée par Snorri Sturluson au XIIIe siècle et a préservé une trentaine de ses poèmes. C'est une partie seulement de son œuvre, mais qui suffit à faire de lui l'un des plus grands scalds connus. Ses poèmes ont été copiés, transmis, traduits. Ils ont inspiré des générations de poètes, d'écrivains et de penseurs. Mais au-delà des textes eux-mêmes, eh bien, c'est peut-être une certaine idée de la poésie qu'Hegel nous transmet. L'idée que la poésie n'est pas un divertissement, mais une manière d'habiter le monde. Qu'elle n'est pas une fuite hors du réel, mais une façon de le regarder plus intensément. Qu'elle n'est pas le privilège de quelques-uns, mais le droit de tout être humain confronté à l'énigme de l'existence. Les Vikings n'ont pas construit de cathédrale de pierre. Les architectures étaient de bois destinées à disparaître. Mais ils ont construit des cathédrales de mots, des structures poétiques d'une complicité vertigineuse, qui portent en elles la mémoire de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont pensé. Egil est l'un des maîtres bâtisseurs de ces cathédrales invisibles. Et 1000 ans plus tard, eh bien, nous pouvons encore y entrer, nous y recueillir, y entendre l'écho d'une voix humaine qui a affronté les mêmes abîmes que nous, la violence, la perte, la recherche de sens, le mystère de la beauté. Nous voici arrivés au terme de notre voyage en compagnie d'Egil, et nous avons exploré la sophistication de l'art skaldique, la puissance performative de la parole poétique dans la culture nordique, la philosophie existentielle qui sous-tend ses œuvres, et la manière dont cette poésie millénaire continue de nous parler encore aujourd'hui. Il est temps maintenant de laisser Egil lui-même prendre la parole, et je vais vous lire des extraits choisis par mes soins du Sonatorec, ce poème composé après la mort de ses fils, et que je considère comme l'un des plus beaux textes de la littérature mondiale. Un poème où la douleur d'un père devient une parole universelle et où la révolte contre les dieux devient réconciliation, où la mort engendre paradoxalement la vie du poème, qui fait vivre ceux qui ne sont plus. Alors, écoutons Egil, écoutons cette voix qui vient du fond des âges et qui pourtant résonne en nous comme si elle avait été proférée hier. La mer m'a volé mes fils. Aegir, dieu des profondeurs, a ouvert sa gueule avide et mon sang y a coulé. Difficile d'ouvrir la bouche, difficile de mouvoir la langue, difficile de faire résonner le marteau du verbe sur l'enclume des dents. Le chagrin a brisé mes murs. Il s'est frayé un chemin jusqu'au trésor caché de mes mots. Odin m'avait fait un don, l'art de tresser les mots, la maîtrise du chant, la langue des scalds. Mais Odin m'a aussi pris ce que j'aimais le plus. Celui qui donne peut reprendre. Les dieux ne sont pas nos amis. Mon fils repose maintenant dans la demeure de Ran, déesse qui tire les noyés dans son royaume sous les vagues. La mer a pris Bodvar, elle l'a emporté comme un voleur. Aucune rançon ne peut le racheter. Aucun combat ne peut le reprendre. J'ai perdu mon ami, mon bouclier, celui qui combattait à mes côtés. J'ai perdu mon frère, chair de ma chair. Maintenant, je perds mes fils, fruits de mon fruit. La lignée se brise. L'arbre meurt de ses racines. Je devrais me taire. Je devrais accepter ce que les Nornes ont tissé. Mais la rage monte en moi, comme la marée qui a noyé mes enfants. Je maudis Aegir, je maudis Ran, je maudis les vagues traîtresses qui prennent sans raison. Pourtant, je sais que ma colère est vaine. On ne fait pas la guerre aux dieux. On ne combat pas la mer. On ne négocie pas avec la mort. Il ne me reste que les mots. Ces pauvres mots que j'aligne, comme des pierres sur une tombe, comme des runes sur un bâton. Mais peut-être les mots ne sont-ils pas si pauvres. Peut-être sont-ils le seul trésor qui vaille, le seul bien qu'on ne peut nous voler, la seule immortalité à notre portée. Mes fils sont morts, mais leurs noms vivront dans mon chant. Mon chagrin s'éteindra, mais les poèmes demeureront. Alors, je remercie Odin, malgré tout ce qu'il m'a pris. Je remercie le Dieu de m'avoir donné ce qui transforme la mort en vie. Je me tiendrai sur le promontoire face à la mer qui a englouti mes enfants. Je regarderai l'horizon, je ne baisserai pas les yeux. Et quand mon heure viendra, quand Hel ouvrira sa porte. J'entrerai sans peur ni regret, car j'aurai chanté ce qui méritait d'être chanté. La poésie est ma vengeance, la poésie est ma consolation, la poésie est ce qui fait de nous plus que de la viande pour les corbeaux. Mes fils dorment sous les vagues, mais leur nom résonne dans ma bouche. Et tant que ma bouche peut parler, tant que mon cœur peut battre, ils ne sont pas tout à fait morts. Ils vivent dans le poème, ils vivent dans ces mots que je lance comme un défi à l'oubli. Voilà, tel est le sonate Torek, tel est le chant d'un père qui refuse que la mort ait le dernier mot et qui, par la poésie, arrache la nuit une parcelle de lumière. Chère auditrice, cher auditeur, nous voici au terme de cet épisode consacré à Egil, le skald qui maudit les dieux et qui, par ce geste même, affirma la grandeur de l'être humain. J'espère que ce voyage, dans le temps, vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir cette figure extraordinaire et surtout de comprendre que la poésie n'est absolument jamais morte, qu'elle continue de nous parler à travers les siècles et qu'elle reste ce lieu où l'on peut affronter ce qui nous dépasse et le transformer en beauté. La prochaine fois que vous serez confronté à une perte, à une douleur, à quelque chose d'indicible, eh bien, souvenez-vous d'Egil. Souvenez-vous qu'il existe une manière de tenir debout face à l'abîme. Celle qui consiste à nommer ce qui nous arrive, à le mettre en mots, à en faire un chant. Pas pour embellir la souffrance et pas non plus pour la nier, mais pour l'habiter pleinement, pour la traverser sans s'y noyer. Et c'est cela la voie poétique, non pas une fuite hors du réel, mais plutôt une manière plus intense d'y demeurer, une manière de dire oui à la vie, même quand elle nous blesse, une manière de transformer le plomb de l'existence en or du verbe. Egil est mort. Il y a plus de 1000 ans, mais sa voix résonne encore. Et tant qu'il y aura des êtres humains pour lire ses poèmes, pour les transmettre, pour les inspirer, il ne sera jamais tout à fait mort. Je vous remercie de votre écoute, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.
Gamle grå jeg hugsar ringen før den brotnar.